Gaëtan Cavite, pour représenter le groupe ornithologique et naturaliste de Douai. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Gaëtan? Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est frais, hein, chemin.
Et pas que le groupe ornithologique, hein, Gaëtan nous en parlera. Mais alors, il y a plusieurs casquettes.
Ah ben voilà, présente-nous tout ça, Jérôme.
Gaëtan, on te connaît avec le groupe ornithologique et naturaliste de la région. Aussi, tu fais partie du Conservatoire naturel des Hauts-de-France, c'est voilà, ça? Donc, qu'est-ce que c'est aussi? Quel est ton objectif avec le conservatoire?
Deux mots sur le conservatoire, dont le nom est Conservatoire d'espaces naturels, qui aujourd'hui a une compétence aussi au niveau territorial sur les Hauts-de-France. C'est un organisme associatif, hein, une association à but non lucratif, gérée par un conseil d'administration de bénévoles, et qui a vocation à gérer des milieux naturels. En fait, sans être trop bavard, le GON existe depuis 50 ans et avec d'autres associations, il y a un peu plus de 30 ans maintenant, on s'est dit, nous, on est surtout une association destinée à connaître les choses, connaître la biodiversité, les oiseaux, etc., la faune. Et il nous faudrait un outil pour gérer des milieux naturels qui valent le coup et qui sont un peu dégradés, qu'il faut réhabiliter, etc., ou préserver quand ils sont encore bien. Et donc, c'est comme ça qu'est né de la part du milieu associatif, c'est comme ça qu'est né le conservatoire. Alors aujourd'hui, le conservatoire, il vole de ses propres ailes depuis longtemps. C'est une grosse structure, hein, et il y a plusieurs dizaines de salariés qui, auprès des collectivités territoriales, assurent des missions de gestion, de proposition de gestion de milieux naturels dans le but d'améliorer, de conserver et voire d'améliorer effectivement aussi bien la faune que la flore.
Et comment un territoire est considéré comme sensible et que le conservatoire intervient à ce moment-là?
Alors, le conservatoire essaye d'une part de repérer des zones qui sont connues. La vallée de la Sensée, par exemple, ce qui se passe avec le Haut-Marais de Rumeaucourt, c'est un exemple typique, puisque c'est surtout sur ce milieu-là que j'interviens. La commune de Rumeaucourt, sous l'impulsion d'une association locale qui s'appelle Le Phare, Patrimoine Histoire à Rumeaucourt, avec mon petit coup de main, puisque j'habite juste à côté, on a proposé à la mairie des mesures de rencontrer d'abord le conservatoire pour élaborer un plan de gestion. Quelle était l'idée de départ? Le marais, il est encore dans très bon état. Il accueille une faune et une flore très diversifiée. D'ailleurs, avec les inventaires floristiques, botaniques du conservatoire, on s'est aperçu qu'il y a des espèces de plantes qui sont rares en région, mais la qualité de l'eau du marais permet leur existence. Donc on a proposé à la mairie de les rencontrer, et puis voilà, ça s'est mis en place. Donc il y a d'abord une première phase de diagnostic. On fait un inventaire complet, le plus complet possible, de tout ce qui vit. Petites plantes, grands oiseaux, petits animaux, etc. Et puis à partir de là, on se dit quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui est menacé? Qu'est-ce qui se porte bien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de conserver, voire d'améliorer? Et on détermine un certain nombre d'actions. Et alors, le conservatoire a vocation à travailler avec tout le monde. C'est-à-dire que, en l'occurrence, sur le marais, il y a de la pêche, de la chasse, des naturalistes, la mairie, puisque c'est un bien communal, tout le monde est autour de la table au comité de gestion.
Voilà. Alors pour adopter des pratiques communes qui vont bénéficier à la préservation ou à l'amélioration du milieu, est-ce que ça veut dire également que ça passe par des interdictions? Est-ce que ça intervient après, notamment au moment du plan local d'urbanisme et tous les documents que doivent produire une collectivité?
Alors, en général, par rapport aux documents d'urbanisme, il n'y a pas de problème, parce que ce sont déjà des zones qui sont classées zones naturelles, repérées. Znief, par exemple, hein, zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique et floristique. Donc, on n'a pas de problème de par rapport, en général, au PLUI, etc. Ce sont déjà des zones intéressantes. Ensuite, pour la mise en place de mesures, c'est un consensus. Il faut trouver un consensus entre tous les utilisateurs. Je vais citer un petit exemple, hein, encore une fois, sur le marais de Rumeaucourt. Il y a une roselière. La roselière, comme partout, si on fait rien, compte tenu que les milieux aujourd'hui sont fermés, il n'y a pas d'inondation qui va... même si cette année, il y a beaucoup d'eau, mais il n'y a pas d'inondation qui va recréer des vasières, puis des roselières, etc. Si on ne faucarde pas régulièrement une roselière, et en tout cas si on ne limite pas la progression des ligneux, des saules, progressivement, les saules gagnent et la roselière disparaît. Or, dans la roselière, il y a des espèces qu'on ne voit nulle part ailleurs, des espèces spécialistes. L'association de chasse avait l'habitude de pratiquer une coupe de saules, ce qui est très bien. Mais ils ne le faisaient qu'au mois de mai. Or, au mois de mai, c'est la pleine saison de reproduction. Bon, on a trouvé un accord. Ils interviennent maintenant, plutôt en saison, et avec une limite fin mars, début avril maximum, de manière ensuite à ne plus intervenir dans la roselière et laisser les oiseaux s'installer. Voilà un exemple.
Ouais, c'est juste la mise en application de bon sens, de mesures communes. Ils sont surpris, tous ces acteurs qu'on voulait convoquer en quelque sorte à se dire on va réfléchir ensemble. Ils attendent, il y a une attente ou alors il y a une surprise ?
Alors non, il n'y a pas vraiment de surprise. Il y a des habitudes à changer. Il y a des habitudes à changer. C'est certain que techniquement, aller couper les saules au printemps ou en été, c'est plus pratique parce que c'est moins mouillé, on va mieux, plus facilement dans la roselière, etc. Ok. Donc c'est des habitudes qui parfois datent de longue date. Mais bon, on explique le pourquoi du comment, on se met d'accord, tout le monde est autour de la table, et puis voilà, on trouve un compromis.
Vous disiez à l'instant, Rumeaucourt, voilà, on a un milieu qui se porte bien, il y a une amélioration. On constate des améliorations depuis quelques dizaines d'années aujourd'hui, tant en niveau qualité que diversité.
Ça dépend des sites. Sur Rumeaucourt, c'est encore assez récent. Un plan de gestion, ça se déroule sur 5 ans. Il y a déjà 2 ans sans intervention, puisqu'il faut faire les diagnostics complets. Même si nous, on avait un suivi naturaliste, ornithologique en particulier, assez complet, les oiseaux, c'est pas tout. Il y a les insectes, tout ce qui est libellule, etc. Il y a toute la partie botanique. Donc il y a 2 ans consacrés à des inventaires. Ensuite, il reste 3 ans, on commence à entreprendre des travaux. Le gros travail qui a été fait la première année, au cours du premier plan de gestion, je veux dire, c'est transformer une ancienne peupleraie en prairie. Il y avait 23 000 m² qui était une ancienne peupleraie. Les arbres avaient été coupés. On sait qu'une peupleraie, c'est moins riche qu'un milieu boisé varié. On sait qu'une peupleraie, c'est moins riche en biodiversité qu'une prairie pâturée de manière extensive. Alors on a fait venir un broyeur forestier, parce que la capacité aussi, une des compétences du conservatoire, c'est de savoir lever des fonds publics pour intervenir. On a fait venir un broyeur forestier qui a préparé le terrain après la coupe des peupliers et l'enlèvement des troncs. Et aujourd'hui, c'est la troisième année, je crois, voire la quatrième, qu'il y a un pâturage qui est mis en place. Il y a 4 vaches qui sont des rouges flamandes, qui d'ailleurs appartiennent à Hugues de Waal, qui est bien connu, agriculteur bio à Villers-à-Terre, qui met ces vaches là. Et aujourd'hui, on voit renaître une prairie. Alors 4 vaches sur 23 000 m², c'est vraiment de l'extensif. Donc ça n'empêche pas des petits bosquets de se développer, etc. Et moi, j'y ai vu l'année dernière. Il n'est pas resté longtemps, mais le tarier des prés, un oiseau de la prairie, qui devient très très rare en région, qui ne nichait plus du tout, on espère qu'il va pouvoir s'installer là, par exemple. Voilà un exemple concret d'amélioration.
Alors, ces espaces, ça ne veut pas non plus dire qu'on les rend inaccessibles.
Ah, pas du tout.
Voilà, on continue à les rendre accessibles. Il y a une éducation du public qui est à faire à ce moment-là.
Alors, un des aspects du travail, c'est ce qu'on appelle la valorisation et effectivement des actions pédagogiques. Là, on a installé, il y en a 5 panneaux pédagogiques tout autour du marais qui expliquent l'un les oiseaux, l'autre l'histoire, un autre sur la botanique, etc. Donc, et puis il y a des sorties qui sont organisées. Alors les usages habituels restent, demeurent. La pêche sur une rive, la saison de chasse dans les deux huttes, les usages demeurent. De toute façon, il ne faut pas rêver, on ne peut pas tout interdire. Après, là on parle de Rumeaucourt, mais il y a d'autres sites où les usages changent. Tout est une question de volonté des acteurs et des acteurs locaux. Il y a des sites qui sont fermés au public, il y a des sites qui sont ouverts au public en fonction des usages en vigueur et de la volonté des propriétaires et des usagers.
Il y a des visites aussi expliquées, notamment le 11 mai, c'est ça ?
Alors le 11 mai, on fait une sortie guidée, effectivement, qui consistera à faire le tour du marais, à expliquer un petit peu, d'abord, au plaisir d'écouter et de regarder les oiseaux et d'expliquer que tel oiseau il vient de revenir, c'est un migrateur, et que tel autre il est là toute l'année, etc. J'espère qu'on aura l'occasion de voir une nouvelle espèce de canard, par exemple, qui s'est installée. Alors là, cette espèce de canard n'a rien à voir techniquement avec les opérations qu'on a faites. Elle est revenue toute seule. La Netrousse, un joli petit canard qui s'est installé et que j'ai encore vu il y a quelques jours. Et puis on expliquera aussi évidemment quel est le rôle du conservatoire en matière de gestion, en matière de proposition.
Je vous posais une question, elle me vient à l'esprit là comme ça. C'est quoi pour vous un nuisible ? Parfois on entend parler d'espèces nuisibles. Alors... Ça existe ou pas les espèces nuisibles ?
Alors là, il faut faire référence un peu à la réglementation. Le mot nuisible n'est plus écrit nulle part dans la loi maintenant.
D'accord.
On parle d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Alors, c'est un euphémisme.
Invasive aussi, on utilise beaucoup le mot.
C'est autre chose encore. Sinon, il y a espèces exotiques envahissantes. C'est encore une autre catégorie. L'homme classe les
orange.
Orange. Il faut des classes, une belle bibliothèque avec des étiquettes. Alors, c'est une petite amélioration, cette notion de nuisible qui n'existe plus, mais bon, qui est... En fait, nuisible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle peut être nuisible à des activités humaines importantes. On imagine qu'effectivement, la multiplication du lapin de la garenne dans certains coins, à certaines époques, était nuisible, entre guillemets, néfaste en tout cas, à l'agriculture, parce que c'est un rongeur, il va manger les blés, etc.
Les rats pour les berges également.
Voilà, les rats pour les berges, les rats musqués, qui en plus sont une espèce introduite il y a très longtemps. Donc, dans ces cas-là, on peut comprendre qu'il y ait des démarches destinées à limiter les populations de ces animaux. Par contre, il y a deux regards là-dessus. Le regard du naturaliste, hormis quelques exceptions précises, où là, vraiment, surtout sur les espèces exotiques envahissantes, là, c'est encore un autre problème, où on comprend qu'il faille limiter les populations. Pour tout ce qui est espèces indigènes, le naturaliste dit « tout le monde a sa place ». La notion de nuisible n'existe pas. Les nuisibles ont des prédateurs. Donc, moi, je cite souvent un exemple qui est un... Je raccourcis, mais... Le lapin... Bien que ses populations soient considérées en déclin dans certains endroits, il était classé nuisible. Il est encore classé dans les ésogues, je crois. Et puis, le renard aussi. Or, le renard mange des lapins. Alors, un nuisible qui mange un nuisible, c'est quoi ? Enfin, bon, voilà. Donc, nous, on essaye d'avoir du recul par rapport à tout ça.
Ouais, c'est histoire de retrouver des équilibres.
Ben oui, il faut retrouver des équilibres. En fait, il y a des visions différentes du rapport à la nature, au départ, quoi. Je veux dire, est-ce que je veux favoriser des espèces que je... Est-ce que j'ai le droit de dire que cette espèce-là, elle est bien, cette espèce-là, elle n'est pas bien ? Hormis, je le répète, dégâts avérés, constatés. Est-ce que moi, j'ai le droit de dire, moi, humain... Toi, tu as le droit d'exister, toi, tu n'as pas le droit d'exister. Nous, on considère que non, les naturalistes.
Dernière question, vous avez évoqué pas mal d'acteurs. Le monde agricole, avec vous, justement, comment il travaille avec le conservatoire ? Parce que là aussi, sont des acteurs essentiels dans la gestion du sol.
Alors, en général, justement, les agriculteurs sont partie prenante. On citait l'exemple du pâturage tout à l'heure. L'essentiel des partenariats consiste à mettre à disposition d'agriculteurs des terrains en pâturage. Puisque, en fait, le conservatoire n'intervient pas en milieu de grandes plaines céréalières. Il va intervenir sur des milieux naturels. Donc c'est souvent la création de pâturages qu'on met à disposition gratuitement au conservatoire à des éleveurs qui ont un troupeau de moutons, un troupeau de chèvres, quelques vaches, etc. On est en train d'étudier la même chose. Pour le domaine de la chaumière, par exemple. On est en train de faire des propositions.
À Coincy, ça, c'est ça
C'est ça, entre Équerchin et Quiry-la-Motte. Et on a, là, aujourd'hui, la décision du comité de gestion de faire du pâturage extensif, pâturage hivernal et pâturage estival, de manière différenciée, donc installation de clôture, etc. Et des agriculteurs vont être partie prenante pour venir amener des animaux.
Il y a quelques années, on entendait beaucoup parler, et de moins en moins aujourd'hui, parce que peut-être que... Alors, est-ce que ça a été fait ou pas ? On parlait des corridors écologiques.
Oui, la trame verte et bleue,
ouais,
etc.
Et tout ça, ça a disparu du champ lexical. Pourquoi ? Parce que c'était trop compliqué à comprendre, que... On dit corridor, donc on met des frontières, on met des barrières, on met des limites.
Mais c'est compliqué dans certains milieux. c'est compliqué dans certains milieux. En fait, c'est une politique essentiellement régionale. Et là, il arrive un moment où, y a eu un effet positif, et ça continue, on continue d'avoir un effet positif quand on reconnecte des milieux, ce qu'on appelait les cœurs de nature, les reconnecter les uns aux autres pour permettre la circulation des espèces. Hein, c'est le principe. Mais il y a des milieux où c'est un peu plus compliqué. On a en ce moment des grandes campagnes de plantation de haies. Eh bien, il y a des endroits où on a des difficultés à faire accepter à certains agriculteurs. Une haie, qui est-ce qui va l'entretenir? Qui est-ce qui va la tailler? Qui est-ce qui va... Bon, voilà. Donc, il y a cet obstacle-là dans certains milieux de grandes plaines cultivées, de grandes cultures intensives. Après, c'est le domaine du politique. C'est le politique qui a influencé, qui a créé ces outils. Si le politique ne les anime pas suffisamment, en ce moment, au Conseil régional, c'est tout sur la haie. Bravo, vive les haies. Moi, j'applaudis, on en a mis dans mon village, etc. Et puis, effectivement, on constate qu'il y a un abandon. Alors, il est difficile pour les politiques d'assumer toujours ce qui a été lancé sur des mandats précédents. Parfois, c'est un peu délicat, quoi. C'est le problème de la politique. Et de la vision à la prochaine échéance électorale au lieu d'avoir la vision à long terme, peut-être.
Peut-être pour terminer, vous êtes avec la casquette groupe ornithologique et naturaliste à la Journée verte. Et quel est l'objectif aujourd'hui avec le stand présent ?
Alors nous, c'est toujours le même objectif, se faire connaître du grand public, répondre à des questions, essayer d'inciter les gens à adhérer à notre association... Il faut être présent, quoi, je veux dire. À Douai, on a une longue histoire avec la ville de Douai. Depuis la création du GON en 1968, le président fondateur était douaisien, donc on entretient. Et puis aussi, par rapport à la commune de Douai, qui nous fournit un certain nombre de services, des salles gratuites et une subvention annuelle, on estime qu'il faut renvoyer l'ascenseur et être là, quoi.
Dernière question. J'ai entendu ce matin que... à peu près les floraisons, tout à une quinzaine de jours d'avance cette année. Est-ce que ça veut dire que les oiseaux vont arriver également avec 15 jours d'avance?
Ça dépend. C'est très compliqué. Alors, on constate, hier, justement, lors de notre AGIR, on a eu un petit exposé sur les effets du changement climatique sur les oiseaux migrateurs. Il y a des oiseaux qui arrivent plus vite et il y a des oiseaux qui n'arrivent pas plus vite. Donc, ça va être très compliqué. C'est difficile de tirer des conclusions parce qu'on est vraiment, même si c'est bien engagé, on a quand même... qu'au début des conséquences. Mais on a des oiseaux migrateurs qui restent ici l'hiver, par exemple, qui ne s'en vont plus aussi loin, parce que cet hiver, il n'y a quasiment pas gelé. Et puis on a des oiseaux qui ont l'habitude de partir systématiquement en Afrique tropicale. Et pour cela, il n'y a rien à faire. Le temps de revenir, il leur faut du temps, il leur faut des semaines. Ouais. Donc il y a des oiseaux qu'on voit en hiver, qu'on ne voyait pas avant, et il y a des oiseaux aussi... à qui ça pose des problèmes, et je termine là-dessus, je suis bavard, c'est, vu qu'il y a des floraisons, l'éclosion des insectes, les chenilles, l'apparition des papillons, etc., est décalée, et certains oiseaux, dont l'arrivée correspondait à ces moments-là, il va y avoir un décalage maintenant, et donc des problèmes de nourrissage des jeunes. Et tout ça, on le constate.
Merci beaucoup, Gaëtan.
Merci.
De rien, merci.